un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un lieu étonnant et miraculeux qui s'appelle l'Après-M. Sur l'enseigne de ce bâtiment bleu, rose et violet, qui s'impose au rond-point de Saint-Barthélemy dans les quartiers nord de Marseille, le M est bien jaune et dodu, évoquant furieusement le fameux M de McDonald's. Mais à la différence de la chaîne américaine qui l'a remplacé, le lieu dit l'après-M est tellement solidaire et joyeux qu'il a donné à Libération le plaisir de titrer « Un fast-food où la frite rit ». On raconte aujourd'hui le chemin qu'il a fallu pour en arriver là et la lutte acharnée de celui qui l'a porté à bout de bras. Kamel Guémari, ou une certaine conception de la lutte et de la justice sociale, qui ne tombe pas si mal à écouter aujourd'hui, à la veille d'un mouvement tout aussi social. On en prend de la graine ou pas, c'est un récit de Sophie Simoneau, intitulé « David contre Goliath ».
Je m'appelle Kamel Guémari, j'ai 41 ans, je suis né à Marseille, dans ces quartiers nord. Je suis un enfant des quartiers populaires et fier de l'être. Mes parents étaient au chômage, ma maman n'a pas fait d'études, elle s'est mariée à l'âge de 13 ans. Donc voilà, on est une petite famille d'une classe sociale peu précaire. J'ai rencontré pas mal de difficultés à travers ma scolarité. Quand on m'a fait passer au collège, j'avais des difficultés à lire, j'avais pas vraiment un cadre. Où... Je me suis retrouvé en quatrième PPP. C'est un peu comme aujourd'hui, on dit les SECPA, à l'époque ça s'appelait PPP. Et nous, dans le quartier, ils appelaient ça prêt pour prison. On se moquait de nous. Et souvent, pour pouvoir exister, j'essayais toujours d'être en avant et de pouvoir être le garçon un peu con et courageux et pour montrer que voilà, j'étais un vaillant. Quand il fallait faire une bêtise, ben, j'étais le premier à la faire. Mon premier scooter, je l'ai volé. Hein. Aller au centre commercial, voler au centre commercial, ben, oui, j'en ai fait. J'en ai fait des bêtises et j'en suis pas fier. Quand on est au quartier, on est toujours absorbé par cette petite économie parallèle qui essaie de m'attirer, qui essaie de dire comment je peux m'en sortir, comment je peux exister, comment je peux être comme les autres, de pouvoir avoir un peu d'argent. Parce que pas beaucoup d'argent, 5 enfants, frigo vide, aller souvent au secours populaire, au resto du cœur, peur de la pauvreté. Et mon rêve, c'était de pouvoir trouver un travail. J'avais mon grand-père qui était cantonnier, qui était le cantonnier du quartier, mais qui était aimé par tout le monde, qui était respecté. Même si c'était pas un travail de luxe, il a réussi à donner un sens à un lieu de vie et de partage, parce que c'était 4 bâtiments dans ce quartier des créneaux, mais c'était une seule famille. Et pour moi, ouais, je rêvais pas d'être cantonnier. Je voulais juste un boulot respectable, mais je savais que ça allait être très très difficile pour moi. Et là, il y a eu cette petite lueur d'espoir qui est venue au quartier. Ronald. Ronald ou McDonald.
Bonjour, bonjour. Regarde bien. Chante et danse avec Ronald McDonald.
Sautez, dansez, on peut tous y arriver.
Bravo, bravo.
Ronald, c'était la mascotte de McDo à l'époque. Le clown avec le nez rouge, sa petite tenue jaune et rouge, qui faisait des petits tours de magie aux enfants. Et quand ils ont installé ce McDo près de mon quartier, pour moi, c'était une lueur d'espoir. Ils faisaient de temps en temps des soirées d'animation dans des entreprises. Quand il y avait des tournois de ballon, quand il y avait ces associations qui essayaient de pouvoir faire vivre le quartier, McDonald's était là. Ils faisaient de la pub, bien sûr, parce que ils se sont installés dans une zone franche. Et quand ils se sont installés en 92, c'était un pari pour pouvoir ramener de l'emploi dans ces quartiers. Et pour moi, waouh, c'était une multinationale qui était reconnue, et si c'était possible de pouvoir travailler sous cette enseigne-là, ce serait extraordinaire. J'ai pris mon petit scooter, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai foncé, j'ai essayé de voir le directeur. Il m'a dit « Ok, il n'y a pas de souci, ramène-moi un CV, une lettre de motivation ». Mais je savais pas faire un CV. Jamais fait de ma vie une lettre de motivation. Je me suis dit, bon, mort pour mort, je vais lui dire la vérité. Donc je suis revenu le voir, j'ai dit, excusez-moi, j'ai aucune expérience et je sais pas c'est quoi un CV. Il a souri, il m'a dit, assis-toi. Il a appelé la secrétaire. Il lui a dit, fais-y sa lettre de motivation. Il m'a dit, on s'en fout du CV. Je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il m'appelle. Mais non, ça a été, quelle est la taille de votre polo, quelle est la taille de votre pantalon, de vos chaussures. Et ils m'ont embauché. J'ai halluciné par la facilité et presque le respect qu'ils me portaient, de pouvoir me donner le sentiment que, voilà, j'existais, que j'allais intégrer une équipe. Quand j'ai eu ma journée d'intégration, je suis rentré avec un trac et de regarder autour de moi, il y avait une diversité. Il y avait des Chinois, il y avait des Pakistanais, des Italiens, des Juifs, des Sénégalais, des Maghrébins que je retrouvais dans mon quartier. J'étais le plus jeune salarié, j'avais presque 17 ans. Peur de mal faire, de pas être à la hauteur. J'en dormais pas si j'ai fait tomber un pain ou si je me suis trompé sur une garniture. Je me disais, mais à la fin du mois, je vais leur faire des pertes et ils vont plus me prendre, ils vont me dégager. Et les collègues, ils étaient là pour me rassurer, ils me disaient, mais non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, nous aussi. On... Et j'ai retrouvé une famille dans ce McDonald's. Quand des fois, la rue, elle m'absorbait, j'avais un grand frère qui venait, c'était le directeur à l'époque, qui s'appelait Fabrice Elbaz, qui me tirait un peu les oreilles et au lieu de me sanctionner, ben, il venait me chercher et me ramener au travail. C'est là où je me suis dit, merde, comment ça se fait que ces personnes-là me tendent la main? Et ça m'a redonné confiance en moi. Je me rappelle de ma première paye, c'était en francs. Et je me languissais de l'avoir parce que je voulais tellement faire de choses avec. Mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas très, 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 très élevée. Mais l'une des premières choses que j'ai faites, eh ben, c'est que j'ai rempli le frigo de ma maman. Et ça, pour moi, ça a été une fierté. Ça a été un premier palier. Après, tout allait très vite. J'ai fait pas mal de postes, que ce soit en caisse ou drive, en salle. Ça m'a permis de pouvoir me donner l'opportunité de devenir formateur. De formateur, je suis devenu responsable de zone. Et quand j'ai pu passer manager, j'étais mal à l'aise parce que un autre ami qui était là et qui était un peu plus ancien que moi, qui avait plus de compétences que moi, j'ai trouvé ça injuste qu'on lui propose pas son contrat de manager. Et au moment de signer mon contrat, je l'ai déchiré. Donc j'ai vu toute l'équipe, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a ce fou ? Pour moi, c'était important pour pas créer une division entre des camarades de travail. Donc j'ai préféré m'auto-punir et de faire prendre conscience que nous sommes une équipe. Et si mon camarade était chagriné, n'allait pas être productif. Il pouvait nous mettre en difficulté. Je préférais affronter cette difficulté avec lui. Parce que moi, je voulais que ça dure. Du coup, ça a créé une polémique dans le restaurant. Et je suis content par cette cause-là. Il a évolué avant moi. Et donc, de là, j'ai pu évoluer. J'étais fier de moi. J'étais fier de réaliser mon rêve. Avoir un toit. Une voiture neuve. Et de fonder une famille. Ma fille, elle est née en 2003. J'étais un jeune papa, manager. Et j'ai toujours eu une facilité avec l'équipe parce qu'ils savaient qu'ils avaient un homme en face d'eux qui a envie de s'en sortir et de les aider à s'en sortir aussi. Je me suis retrouvé malgré moi, comme on dit dans le langage McDonald's, un leadership. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au syndicat, dans le syndicalisme. J'avais aucune formation de politique, j'avais aucune formation syndicale ou de droit. J'avais, oui, la formation de la rue. Et qu'est-ce que c'est la justice ou l'injustice dans ce monde-là, à travers mon regard à moi, c'est tout. Mais je suis allé parce que c'était pas un McDo comme les autres. J'avais une famille et un lieu de vie. Parce que après notre travail, on sortait ensemble en boîte, on allait en vacances ensemble. Quand on était de repos, on se retrouvait au McDo. Et tous les collègues étaient de différents quartiers. Aux alentours de ce restaurant, moi j'étais de la Savine, il y en a qui étaient de la Paternelle, de la Bussurine, de la Castellane. On était pareil. Comparé à d'autres restaurants, où le turnover il est élevé, on était des travailleurs et des travailleurs qui essayaient de faire carrière. Qu'ils essayaient de s'accrocher, de pouvoir continuer à ramener une subsistance et de pouvoir construire notre vie. Quand j'ai été délégué du personnel, je l'ai de suite ressenti, pas envers le restaurant, mais envers la direction, les superviseurs, le patron, qui était un franchisé. Mais j'avais une petite conscience que je pouvais me permettre un peu d'abuser parce que mon directeur était mon frère, c'est fraternel, on n'est pas sortis du même ventre, mais on se connaît mieux que nos propres frères de sang. C'est pour ça que ça m'a permis de pouvoir me lancer corps et âme dans le syndicalisme, comme on avait conscience que cette entreprise profitait de cette zone franche. On s'est battu pour pouvoir apprendre et comprendre que l'entreprise avait une très très bonne santé et que les richesses doivent se partager et que cette richesse-là, elle est produite par des petits bras. Et on a réussi à obtenir pas mal de droits et d'avantages sociaux, des primes trimestrielles ou un 13e mois. Et de là, quand j'ai créé des liens avec d'autres restaurants, parce que je faisais des remplacements, quand il manquait un salarié, j'étais volontaire. Et on a vu qu'on n'avait pas le même traitement, on n'avait pas les mêmes avantages sociaux, mais l'hamburger avait le même goût. Et c'est là où je me suis dit qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'ont pas les mêmes droits que nous. Et là, on a réussi à créer un truc qui était extraordinaire. Hein. On a bloqué 215 McDo, un McDo qui fait 10 000 euros par jour fois 215 pendant 8 jours, ça représente des millions d'euros. Pour faire prendre conscience à McDonald's, de respecter nos droits. Donc on était 1200 salariés, contents et fiers d'avoir participé avec d'autres camarades, d'autres syndicats, de pouvoir mettre un 13e mois en place, de pouvoir avoir des heures de nuit On a mis une mutuelle à l'époque en place et on avait mis la participation bénéfice. Et ça, ça a été ma première victoire contre les responsables de McDo. Et tout ça est parti du restaurant de Saint-Barthélemy, d'un McDonald's pas comme les autres. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que tellement on a pu arriver à lutter et obtenir pas mal de droits, on est devenu un modèle social très dangereux pour McDonald's tout court. Ça faisait râler d'autres franchisés. Et après plusieurs discussions avec l'ancien vice-président McDonald's France, il nous a dit, on va vous mettre un franchisé à la hauteur et il saura faire avec vous. On a très vite compris que c'était un ancien DRH, McDonald's France. Et ce requin déguisé en dauphin, ben, au bout de 15 mois, a fait disparaître les accords, a pratiqué le dumping social. J'étais dans une colère, mais cette colère-là, il fallait que j'arrive à la canaliser pour ne pas perdre la raison. Ça a été très dur, on est passé par des grèves, des sacrifices, et on n'a pas hésité de sillonner la France pour parler de nous, pour parler de ce qu'on subit. On a été en Angleterre, on a été en Espagne, on a été en Italie, on a vraiment fait le tour du monde. Et ça a même touché les grands responsables des États-Unis. Ils se sont dit, qui sont ces personnes-là qui sont en train de faire parler d'eux, qui sont en train de foutre le bordel. Il est hors de question de pouvoir continuer à travailler avec ces animaux. Quand on fait la une du New York Times, quand on fait la une de Forbes, de El País ou en Chine ou en Indonésie, il faut qu'ils investissent pour pouvoir racheter leur image. Ça leur coûte cher. Alors à côté de ça, fermer un petit restaurant qui génère un chiffre d'affaires de 300 000 euros dans les quartiers nord de Marseille, c'est rien du tout. Et là, ils se sont déchaînés. On est rentré en lutte frontalement contre McDonald's. Et là, ça a été coup pour coup. Ça a été au début d'essayer de me corrompre. Ils m'ont proposé 700 000 euros de rupture conventionnelle. Ma famille, mes amis me disaient « Mais ferme ta gueule et prends ton argent. » Mais moi, ce lieu est ma vie. Ce lieu m'a aidé à me construire. Ce lieu m'a aidé à reprendre confiance en moi. C'est quand on goûte pas à la misère qu'on a peur de la misère. De prendre cet argent et de pouvoir continuer à me regarder face à un miroir, c'est difficile. Ils ont fait venir des milices, ils ont fait venir des vigiles 24 heures sur 24 pour nous surveiller. Il y avait des huissiers, il y a eu une panne d'informatique. On n'arrivait plus à vendre, on n'arrivait plus à commander les produits pendant des mois. Le restaurant ne fonctionnait pas, mais ils nous payaient nos salaires. Ce qui explique qu'il était déficitaire. Personnellement, je vivais une pression parce que les salariés n'avaient plus d'espoir. Ils se retournaient contre moi. Et ça, j'en ai pris des coups par mes amis. Quand je dis mes amis, mes frères, de travail et de lutte. J'ai perdu ma femme, mes enfants, parce qu'on a menacé mes enfants. Des hommes cagoulés, ils pensaient que j'étais dans la voiture et elle était avec mes enfants. Elle s'est pissée dessus. Elle m'a dit quitte cette lutte ou ça va pas être possible parce que on risquerait de te tuer ou de nous faire du mal. Donc j'ai essayé de la préserver, de m'éloigner de mes enfants. Pas de me séparer, mais le temps a fait que je voulais pas lâcher. Pour moi, c'était insupportable que ce restaurant puisse disparaître, que cet ascenseur social ne puisse plus exister. Donc, j'ai vrillé.
Je vous en supplie, ne faites pas les cons, ne rentrez pas.
Je me suis enfermé dans ce restaurant et avec des barils d'essence et j'ai sorti les salariés et j'ai failli passer à l'acte.
Il est 14h30, le délégué syndical Force Ouvrière menace de s'immoler.
Le 7 août 2018. Ce jour-là où j'ai perdu espoir à l'humanité, j'ai perdu espoir à la justice, j'ai perdu espoir. Ce qui pouvait arriver, je me dis, tant pis, j'en ai rien à foutre.
Je veux parler avec McDonald's. C'est eux qui sont responsables de tout ce qui se passe.
L'homme est sorti de lui-même du bâtiment après avoir parlé à plusieurs élus. Il a été emmené à l'hôpital de la Timone pour des brûlures superficielles. L'émotion est encore très forte.
Et le 12 décembre 2019, la liquidation judiciaire a été prononcée. Et le confinement est arrivé. Dans notre quartier, c'était très difficile. Plus de travail. La plupart des habitantes et des habitants n'avaient pas peur de mourir du Covid, mais avaient peur de mourir de faim, ils n'avaient plus rien. Et j'ai vu les collègues, c'est un collectif qui se trouve à la Maison Blanche. C'est un quartier qui est plongé dans une précarité. Essayer de s'entraider, de voir comment ils peuvent essayer de chercher de la nourriture. Et c'est là où je me suis dit, mais mince, j'ai les clés du McDonald's. Je n'avais jamais rendu les clés. Et un soir, donc, je me suis rendu au restaurant. J'ai allumé les lumières. Et j'ai essayé de regarder les frigos, ils étaient en marche, tout était fonctionnel. Et je me suis dit, waouh, j'ai de suite contacté les collègues du collectif de Maison Blanche et leur dire, sachez que vous avez un lieu, vous pouvez l'utiliser, comment je peux vous aider, comment je peux être au service. Et là, il y a eu de suite les collectifs du quartier, les habitantes et les habitants, des associations, des syndicats. Donc, on a réquisitionné le lieu. Et de là, ben, il y a eu de suite les restaurateurs, ils nous ont contactés. Nous allons jeter du lait, nous allons jeter du beurre, nous avons de la farine, des comment on peut vous aider, ramenez-les. Et nous, on va essayer de les distribuer. Il y a eu de suite les marins-pompiers qui sont venus nous aider. Il y a eu l'Or de Malte. Il y a eu le commissariat qui était à côté de nous, Bassens. Ils étaient bénévoles chez nous. Il y avait les infirmières libérales. Donc, il y avait une énergie, une très, très belle machine de guerre qui a été construite par l'intelligence collective. Et de dire, waouh, voilà, on existe et on est là et on est pour la bonne cause. Quand il y a eu le déconfinement, les gens continuaient à venir chez nous pour pouvoir prendre des colis alimentaires et nous continuions à recevoir des dons. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre McDonald's, que c'était le nôtre. Si eux, ils veulent quitter ce quartier-là, nous, on n'en a rien à foutre, mais l'outil de travail nous appartient. Donc, on a fait une levée de fonds et demandé 25 euros par personne du quartier ou des personnes qui souhaiteraient racheter ce lieu. Et on a réussi en même pas 5 jours à lever presque 100 000 euros. McDo n'a jamais voulu discuter avec nous. McDo n'a jamais voulu nous le vendre. Parce que après une belle bataille, et c'est compréhensible. Hein. Et là, notre maire, Benoît Payan, il nous a dit, je peux pas vous laisser tomber. Et je pense qu'il y avait une responsabilité, un rôle à mener, c'est à moi de le faire. En tant que maire de cette ville, nous allons préempter. On s'est dit, waouh, est-ce que c'est une blague? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? C'est une arnaque? On comprend pas trop. C'est jamais fait. Mais le 2 juin 2020, notre chère mère vient sur le parking du McDonald's et annonce officiellement le rachat de ce lieu. On s'est dit, waouh, ce lieu ne va pas être démoli. En fait, on n'a pas perdu. on est toujours là. Et ce lieu va continuer à exister. Et surtout, ils nous ont laissé carte blanche pour pouvoir continuer à rêver, parce que ce lieu est un lieu d'hétérotopie, là où les rêves se réalisent. Donc, on n'arrête pas de rêver. On fait de la distribution alimentaire, on fait les maraudes, de la livraison des colis alimentaires pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont très âgées. Nous sommes en train de monter une conserverie populaire pour pouvoir essayer de transformer tous les fruits et légumes qu'on peut pas distribuer. Et surtout, on fait des burgers, et notamment un burger ovni qui est élaboré par un chef étoilé qui est Gérald Passeda, accessible à des personnes qui ne peuvent pas se permettre un restaurant gastronomique. Mais on vend pas que des burgers, on vend de l'entraide. Personnellement, aujourd'hui, je touche mon chômage. J'attends de me mettre d'accord avec McDonald's sur mes 3 ans de salaire, parce que ça fait plus de 3 ans que j'ai pas touché un franc. Tout le monde m'a pointé du doigt, tout le monde m'a accusé de profiter sur ce concept-là, profiter sur la misère. Non, non. La misère, moi, je profite pas dessus, je la combats. Aujourd'hui, j'ai du mal à redescendre sur terre, hein, parce que j'arrive et je rigole seul, des fois je rigole, je vois ce lieu, je vois des enfants qui sourient, qui cavalent, je vois des travailleuses et des travailleurs. C'est une histoire d'un territoire qui a résisté face à Goliath, et je pourrais pas dire qu'ils ont perdu, mais la seule chose que je pourrais dire, ils n'ont pas gagné.
On a planté des je t'aime en plein cœur de la crise. Au jour où on nous dira c'est fini, c'est du passé, n'en parlons plus. Le ciel est bleu, le vent est doux. Embrassez-vous, embrassez-moi, embrassez-moi. Embrassez qui vous voulez, où vous voulez. Sur les mains, sur les yeux, sur les babines. Serrez-vous pour murmurer et postillonnez-vous dans le nez. Allez-y, ouvrez grand vos orifices, ouvrez vos gueules, ouvrez vos cils. Ouvrez vos sens, ouvrez vos silences. Oubliez le temps des crises et place au temps des cerises. On a planté des je t'aime en plein cœur de la crise.
C'était l'après-M, David contre Goliath, un reportage de Sophie Simoneau réalisé par Sylvain Richard. Merci bien sûr à Kamel ainsi qu'à Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Rita Ruggiero, notre stagiaire.